France Culture.
Et il est 12h30, c'est le journal de la rédaction. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. L'espoir aura donc été de courte durée. Quelques heures après la réponse du Hamas au plan de paix présenté par Donald Trump, les frappes israéliennes sur l'enclave ont repris, malgré la demande du président américain à cesser les bombardements. Et si le Hamas dit accepter la libération des otages israéliens, il ne mentionne pas la question de son désarmement, de son exclusion de la future gouvernance à Gaza, ou encore celle de l'exil de ses combattants, car le mouvement islamiste palestinien entend bien jouer du processus de négociation. Nous expliquera le politiste et spécialiste des relations internationales Bertrand Badi. Mettre à l'honneur la création afro-diasporique et soigner les relations entre la France et l'Afrique, ambition de la Maison des Mondes Africains souhaitée par le chef de l'État, elle ouvre aujourd'hui ses portes à Paris. C'est le politologue et historien camerounais Achille Mbé qui avait proposé ce projet au chef de l'État en 2021 dans un rapport. Il est notre invité à la fin de ce journal. Le Hamas se dit donc prêt à libérer les 48 otages israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza. L'annonce a été faite hier soir par le mouvement islamiste palestinien qui est disposé à des négociations immédiates pour la fin de la guerre dans l'enclave dans le cadre du plan proposé par Donald Trump, le président américain qui, dans la foulée, appelle Israël à arrêter immédiatement les bombardements. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem pour France Culture, mais cette demande du président américain n'a pas été vraiment entendue, Thibault.
Non, parce que la guerre continue actuellement dans la ville de Gaza. C'est la défense civile palestinienne qui confirme ce matin de nouvelles frappes donc sur cette ville de Gaza. Des bombardements entendus plus au sud, à Deir el-Bala, où se trouve en ce moment même le patron local d'une ONG française, Supernovae. Il s'appelle Loï Nasser.
De là où nous sommes, on entend d'intenses explosions. Il faudra encore du temps avant que les combats ne cessent. Il n'y a pas d'accord sur le moment exact du cessez-le-feu.
Et l'armée israélienne a rappelé aux déplacés palestiniens par la voix de son porte-parole arabophone que le nord de l'enclave était toujours une zone de combat active et dangereuse. Je vous rappelle qu'immédiatement après la réponse du Hamas tard hier soir, Donald Trump a exigé des Israéliens qu'ils mettent fin au bombardement pour permettre la libération des otages. Une demande qui n'est donc pour le moment pas suivie d'effet. Dans le plan du président américain, les belligérants ont théoriquement 3 jours jusqu'à lundi soir pour procéder à l'échange. D'un côté, tous les otages, ils sont 48, toujours aux mains du Hamas et du djihad islamique, dont 20 présumés vivants, et de l'autre, 250 prisonniers palestiniens qui purgent des peines de prison à vie, et 1700 détenus arrêtés après le massacre du 7 octobre 2023, et pour beaucoup, maintenus en prison sans charges avérées.
Il y a pourtant des signes positifs, Thibault, qui laisse penser que la première phase de l'accord peut être appliquée.
Oui, d'abord, les belligérants et les médiateurs ont validé le principe de l'échange. Ils ont tous validé le principe de cet échange et ils doivent se réunir pour des négociations directes demain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et puis, malgré les bombardements, l'armée israélienne a gelé ce matin son avancée au sol dans la ville de Gaza et les 3 bataillons engagés ont reçu l'ordre de rester sur des positions défensives. Non, ce qui pose problème, c'est la suite, la question du désarmement du Hamas notamment. C'est une exigence israélo-américaine qui pour le moment n'est pas évoquée par l'organisation islamiste. Autre point de friction à venir, la future gouvernance de Gaza. Le Hamas compte participer aux prochaines négociations alors que le plan Trump sort ses dirigeants de l'équation.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem pour France Culture. À 7h, il est donc difficile de parler de véritable tournant dans le conflit entre Israël et le Hamas. Professeur émérite des universités à Sciences Po Paris et spécialiste des relations internationales, Bertrand Badi estime que de nombreux obstacles demeurent, notamment la stratégie impétueuse de Donald Trump qui positionne le Hamas comme le principal interlocuteur à Gaza, quitte à supplanter l'autorité palestinienne.
Le Hamas, depuis 2 ans... a su jouer du processus de négociation, ne serait-ce que pour montrer qu'il n'est pas aussi éradiqué que d'aucuns le disent, peut-être même n'est-il pas aussi affaibli que l'on le dit généralement. Il l'est incontestablement sur le plan de ses ressources militaires, mais là on constate que depuis une semaine, le monde entier est suspendu à la décision de cette organisation et que finalement, l'élément central, pivot de la la décision côté palestinien, c'est le Hamas et non l'autorité palestinienne. Donc, le Hamas se joue assez habilement, il faut bien l'admettre, de ce rôle qui lui est donné pour peu à peu apparaître, que ça plaise ou que ça plaise pas, comme l'interlocuteur privilégié. Il est fort à parier qu'il va justement savoir jouer de cette méthode de dramatisation et d'ostentation propre à Donald Trump pour se mettre plus en avant sur la scène régionale et montrer qu'il faut bien compter avec lui.
Le professeur et spécialiste des relations internationales Bertrand Badi au micro de Lou Momège de France Culture. Au Maroc, après deux nuits d'émeutes au cours desquelles des symboles de l'État ont été attaqués, c'est un relatif retour au calme. Emmené par le mouvement Gen Z, les jeunes marocains réclament depuis une semaine la révocation du gouvernement, mais surtout des réformes dans l'éducation et le domaine de la santé, alors que les hôpitaux marocains sont à l'agonie. À Casablanca, la correspondance de Zedik Ralfi.
Après deux nuits d'émeutes, deux nuits de calme ici au Maroc, non pas parce que le discours du Premier ministre Aziz Hamdouche et ses promesses d'entendre leurs aspirations a convaincu les jeunes, mais après le choc de ces trois décès lors de l'attaque d'une gendarmerie près d'Agadir, on a vu ces dernières nuits un sursaut patriotique chez ces jeunes qui sont allés jusqu'à nettoyer les rues, sympathiser et offrir des fleurs à la police. Cela n'enlève en rien leur volonté de plus de justice sociale. La Gen Z prouve qu'elle sait se tenir, mais n'en abandonne pas moins ses revendications. Cette jeune mère de famille explique pourquoi elle ne veut pas de second enfant.
C'est de la torture dans les maternités. Je ne veux même plus de second enfant à cause des maltraitances qu'on m'a fait subir à l'accouchement. On maltraite les femmes à l'hôpital.
Mohamed Oulkhouir est juriste. Il comprend les attentes de cette jeunesse.
On peut faire des stades en quelques mois. Quand dans le même temps, l'hôpital de Tétouan des spécialités qui était censé être terminé il y a 10 ans, ne l'est toujours pas 10 ans plus tard, donc forcément on comprend pas.
Coupe du Monde 2030 en tête, la jeunesse marocaine ne veut pas être sacrifiée au profit de stades, et même à Sagi, elle compte bien le faire savoir.
Les bureaux de vote ferment d'ici 1h30 en République tchèque, où les électeurs sont appelés à élire leurs députés. Le candidat populiste, le milliardaire Andrej Babiš est le grand favori, loin devant les représentants du gouvernement sortant. Un scrutin marqué par l'ingérence étrangère et la désinformation. Des ingérences étrangères et vraisemblablement russes. C'est ce à quoi est confronté l'espace aérien européen ces dernières semaines. À Munich, le trafic a été une nouvelle fois interrompu la nuit dernière, à la suite d'une nouvelle alerte aux drones. 6 appareils ont été aperçus à proximité de l'aéroport, entraînant l'annulation de 17 vols. C'est la deuxième nuit que l'aéroport de la capitale bavaroise est paralysé. Berlin dénonce la menace que ces appareils font peser sur la sécurité nationale. Des avions qui devraient en revanche bien décoller en France la semaine prochaine. Le principal syndicat des contrôleurs aériens annonce suspendre son préavis de grève les 7, 8 et 9 octobre prochains. Annonce faite après une conciliation avec la Direction générale de l'aviation civile et compte tenu des accords trouvés avec la direction, indique le syndicat dans un communiqué. Accepteront-ils de participer au prochain gouvernement ? Les Républicains continuent d'entretenir le doute, désireux de pousser les feux à droite toute, alors que le patron du parti, Bruno Retailleau, s'est irrité jeudi du manque d'engagement de Sébastien Lecornu sur l'immigration. La décision des LR sera prise ce soir, affirme la sénatrice et porte-parole du parti Agnès Evren sur France Info ce matin. Tandis qu'en face, eh bien, les mains tendues envers les socialistes se multiplient. Le ministre démissionnaire de l'économie, Éric Lombard, estime ainsi que des pistes de compromis sont possibles. Le PS qui lui attend un nouveau bouger du Premier ministre d'ici à mardi prochain et sa déclaration de politique générale. C'est un nouveau lieu culturel souhaité par Emmanuel Macron, mais qui a fait l'objet d'une lutte acharnée. La Maison des Mondes Africains, aussi appelée Mansa, ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Après 4 années d'un travail laborieux et de nombreux obstacles pour faire sortir de terre ce projet présidentiel qu'avait ardemment soutenu l'historien Achille Mbembe, Chloé Leprince l'a interviewé à l'occasion de cette ouverture au public.
Bonjour Achille Mbembe. Et bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes politiste, vous êtes aussi l'un des plus grands intellectuels du continent africain aujourd'hui. Et dans votre rapport pour de nouvelles relations Afrique-France, adressé à Emmanuel Macron en 2021, vous détaillez la Maison des mondes africains, justement, qui ouvre ce week-end à Paris. Et à l'époque, en 2021, vous décriviez l'ambition d'un lieu pluridisciplinaire voué à la création contemporaine africaine et diasporique. De quoi réaffirmer Paris comme, je cite, « capitale artistique africaine », ça signifie quoi ?
Et ça signifie, dans un premier temps, revenir à une vieille tradition qui date, je dirais, d'au moins un siècle et qui aura vu cette capitale qu'est Paris émerger dans le monde littéraire, artistique et culturel comme un très important centre transnational de la création afro-diasporique. Je pense en particulier à la musique, au théâtre, à la littérature, etc. Et donc l'idée, dans le rapport que j'avais remis au président de la République, l'idée était de renouer avec cette tradition afin de se déployer tous ensemble, Afrique, France, Europe d'ailleurs, dans le nouveau siècle, en tissant évidemment entre nous des relations mutuelles reposant sur l'identification de questions qui nous sont communes et sur une méthode qui consiste à essayer d'y répondre en commun.
Dans votre rapport qui date donc de 2021, la Maison des mondes africains s'appelait encore Maison des mondes africains et des diasporas. Le lieu qui ouvre ce samedi à Paris s'appelle seulement, si je puis dire, Maison des mondes africains. Est-ce que c'est difficile de faire exister la richesse, mais aussi la particularité d'un monde diasporique ?
Non, ce n'est pas difficile. En fait, ça fait plus court dans le titre. Maison des mondes africains, on se réfère à une Afrique monde, une Afrique à multiples fuseaux, dont les points de destination se trouvent non seulement sur le continent, mais aussi dans les Antilles, dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Brésil et ailleurs. C'est de cette Afrique monde dont il est question dans le concept de maison des mondes africains.
À l'époque, vous défendiez très fortement l'idée d'un imaginaire partagé. Vous l'avez aussi rendu audible, rendu visible. Un imaginaire partagé Afrique-France qui a fait émerger encore. C'était aussi le but d'une saison comme Afrique 2020. On se parle 5 ans après. Vous diriez qu'on en est où de cet imaginaire partagé ?
Mais c'est une lutte, hein, la vérité. Cela ne va pas de soi. On est face à des forces qui veulent nous séparer. On est face à des mouvements qui pensent que le salut est dans la sécession, alors même que l'histoire qui nous relie, qui est une histoire extrêmement complexe, à mon avis, elle n'est pas terminée et qu'elle reste à écrire. La conscience que j'avais en rédigeant ce rapport, c'était bien celle-là. Il s'agira d'une lutte, on l'a bien vu, lors du processus qui aura conduit à la mise en place de la maison. Il aura fallu se battre, ce n'est pas terminé.
Exactement, parce que la Maison des mondes africains, qui vous donc dans le 10e arrondissement à Paris, près du canal Saint-Martin, c'est son lieu provisoire pour 2 ans et elle a été longtemps SDF, ça a été laborieux. Est-ce que c'est parce que c'est plusieurs tutelles ou est-ce que vous vous êtes heurté à des résistances particulières ?
Comme nous le savons tous, la France et l'Afrique d'ailleurs, nous traversons une période assez difficile de nos histoires personnelles, en rapport avec nos identités, ce que nous voulons être dans le monde. Rien de tout cela n'est donné, il faut lutter, et il faut se faire place au sein des institutions existantes. Et disons, le combat pour la Maison des mondes africains aura été une de ces épreuves. Un jour viendra, on en écrira toute l'histoire. Pour le moment, il faut célébrer ce pas extrêmement important et se concentrer sur la programmation et la sorte d'offre que la maison a proposée.
Je vous remercie, Achille Membe, d'avoir accepté de nous répondre pour l'ouverture de cette maison des mondes africains que vous avez très largement élaborée il y a 4 ans.
Et merci beaucoup à vous, merci.
Et merci à vous, Chloé Leprince, pour France Culture. La météo avec une première tempête automnale qui traverse le nord du pays. 6 départements sont placés en vigilance orange pour vents violents. Des pluies brèves mais soutenues qui circuleront cet après-midi du sud-ouest au nord-est. Les températures affichent 14 à 20 degrés sur la moitié nord, 19 à 24 en moyenne au sud. C'est la fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia, Grégory Wallon à la technique.